troisième Midi citoyen cette saison. Les Midi citoyens sont le fruit d'un partenariat de Bibliothèque et Archives nationales avec l'Institut du Nouveau Monde dans un objectif d'offrir un lieu de rencontre et de débat sur des sujets d'actualité. Le premier Midi citoyen présenté en novembre dernier une table ronde dont le sujet était « Le Québec est-il en marche ou en panne ?». Le deuxième Midi citoyen, qui s'est tenu en janvier, abordait la question de la culture québécoise au contact du pluralisme religieux et culturel, cette question qui est au cœur de l'actualité depuis plusieurs semaines. Je vous invite, si vous n'avez pas pu participer à ces rencontres, à aller les écouter sur le site Internet de BANQ. Ces deux Midi citoyens sont disponibles en balado-diffusion et elles ont été des rencontres fort intéressantes. Donc, le Midi citoyen d'aujourd'hui touche encore une question d'actualité sur la culture. Le Québec est-il cancre ou premier de classe? Est-ce que le Québec se donne encore les moyens de soutenir la culture? Est-ce que les Québécois s'y intéressent encore? Y a-t-il un déclin comme certains l'annoncent publiquement? Nous en saurons un peu plus et nous aurons l'occasion d'en débattre. Je vous souhaite un bon Midi citoyen. Je cède la parole à Madame Ariane Aymond. Journaliste, indépendante et animatrice. Vous la connaissez sûrement du collectif La Vie en rose, longtemps Radio-Canada et à Télé-Québec. Elle collabore régulièrement à l'émission Pensée libre à Radio-Canada et au journal L'Alternative, où elle tient une chronique culturelle. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Aymond, qui vous présentera les panélistes d'aujourd'hui. Bon midi, citoyens. Merci.
Merci, Mme Petitclerc. Je pense que je vais rapprocher ça. Bienvenue, je suis contente de vous voir ici aujourd'hui. Madame Petitclerc le soulignait la dernière fois que nous avons fait un midi citoyen ici, au fond, c'était beaucoup pour mettre nos participants comme vous dans l'ambiance de ce grand rendez-vous stratégique sur la culture que l'INM prépare et qui est maintenant en action. Et nous avons donc, quelques semaines après ce premier midi citoyen, lancé le premier volet du rendez-vous et où on a discuté un peu en continuité avec ce qu'on avait abordé ici. Et je voulais simplement vous dire que ça s'est passé le 1er et 2 février dernier et qu'il y avait en même temps au Québec, dans 9 villes différentes, plus de 850 personnes qui ont débattu calmement, dans le bonheur, les trois quarts du temps, avec beaucoup d'enthousiasme de l'état de la culture sous une forme un peu plus anthropologique, je dirais. Est-ce que aujourd'hui nous sommes toujours en face d'une culture commune ou si doucement on est en train de glisser vers une mosaïque d'identité? Est-ce que c'est ça que nous souhaitons? C'était l'esprit, grosso modo, de ces discussions qui ont été absolument passionnantes. Aujourd'hui, donc, on prépare un peu avec vous et avec nos trois invités ce deuxième volet qui, cette fois-là, s'intéresse plus à la dimension artistique, à nos pratiques culturelles en création et en diffusion. On est très fiers de ce partenariat avec la Grande Bibliothèque et c'est très inspirant de venir en débattre ici parce que je dirais qu'un peu comme notre culture qui est en mutation, les bibliothèques le sont aussi. Les bibliothèques changent et sont de plus en plus des carrefours de savoir, de population, de génération. Alors, on va se demander aujourd'hui quel est l'état de santé de la culture. Est-ce qu'elle est aussi florissante qu'on le croit? Et avec notre trio d'hommes de choc, comme vous voyez, nous allons essayer de répondre à la question. Alors, je vous présente en rafale, à ma gauche, Monsieur René Barsalo, à ma droite, à mon extrême droite, excusez-moi, Monsieur Rosaire Gagnon et Monsieur Garon. Oui, j'ai commencé à appeler Monsieur Gagnon tout à l'heure, alors j'ai l'art de débaptiser, c'est terrible. Et à ma droite, Monsieur Joseph Naclé, je vous les présente un peu mieux dans quelques instants. Je vais vous dire que vers 1h30, je vais prendre quelques questions de la salle pour que se perpétue cet enjeu mis de l'avant par l'INM qui est toujours de permettre un certain débat entre des experts et les citoyens. Alors, la question de la journée, sous la poussée des avancées technologiques, de la mondialisation, du vieillissement de la population, comment a évolué la culture québécoise depuis 25 ans. Et quand on parle de culture, je pense que dans ce cas-ci, bien sûr, on parle de création culturelle, de pratique, mais il faut avoir en tête la place des médias, les performances scolaires des jeunes, les habitudes de lecture, l'usage d'Internet, les pratiques linguistiques des uns et des autres. Et c'est pour ça que cette question un peu brutale a été posée. Est-ce que finalement la culture québécoise est un premier de classe ou un cancre qui s'ignore? Alors, je vous présente d'abord à ma gauche Monsieur Barcelo. Monsieur Barcelo est un communicateur, un designer graphique et d'interface depuis plus de 25 ans. Il est un analyste et un veilleur influent du secteur de la culture numérique et un témoin privilégié de la transformation radicale des secteurs de l'édition et de la télévision avec l'arrivée du numérique dans l'espace culturel. Et depuis 2004, il est à l'emploi de la SAT. La SAT, c'est la Société des arts technologiques, à titre de directeur stratégie et partenariat. À ma droite, Monsieur Joseph Naclé. Monsieur Naclé est d'origine libanaise. C'est un audacieux organisateur d'événements culturels. Il est le directeur général du FMA, le Festival du Monde Arabe à Montréal. Cet événement, fondé maintenant il y a 7 ans, en 2000, vise à créer des ponts entre les cultures. On y présente des performances musicales et scéniques d'artistes montréalais et étrangers. Et au final, Monsieur Rosaire Garon. Monsieur Garon est sociologue et pendant plus de 30 ans, pour le compte du gouvernement du Québec, il a été un observateur privilégié de l'évolution de la culture, un chercheur émérite, le père de l'enquête récente sur les pratiques culturelles des Québécois. Donc, ce que je vais vous demander à chacun en vraiment deux mots, comme si vous répondiez à un sondage, simplement pour nous mettre l'eau à la bouche. En matière de culture, est-ce que le Québec est en plein développement, en stagnation ou en perte de vitesse? Vous devez cocher. Monsieur Barcelo.
En plein développement.
Monsieur Naclé. En plein développement?
Bien, c'est-à-dire, il est en plein développement, oui, maintenant, avec certaines ombres.
Avec certaines ombres. Alors, à tout seigneur, tout honneur, nous allons d'abord, et sans doute parler aussi de ces accents de lumière, mais nous allons entendre d'abord Monsieur Garon qui va nous brosser le portrait en moins de 10 minutes des plus grandes transformations de la culture au Québec depuis 25 ans. C'est à vous.
Merci bien. Alors, qui sommes-nous? Cancre, premier de classe. Avant de distribuer le bulletin, je pense bien qu'il est bon de voir ce que les devoirs ont produit. Alors, pour établir quel est l'état de la situation de la culture québécoise, je pense qu'il est bon de faire une certaine rétrospective, de voir qu'est-ce qu'on était, d'où nous sommes partis et où arrivons-nous. Alors, nous allons partir, en fait, compte de ce qu'on pourrait appeler les enquêtes sur les pratiques culturelles, où j'ai quand même mis beaucoup d'efforts, et qui nous permettent de voir comment la culture québécoise a évolué au cours de 25 ans, c'est-à-dire des années 79 à 2004. Puis, voir comment, au travers de ces enquêtes, on voit la transformation de l'identité culturelle québécoise. Donc, on est parti des années 70-80, d'une culture qui était plutôt assez homogène, vers ce qu'on appelle maintenant une culture très diversifiée, éclatée. Ce dont il va être question aujourd'hui, j'ai essayé de me contenir pour cerner certaines questions très, très, très pointues et limitées, pour justement que le débat, en fait, ne s'éparpille pas trop tout azimut. Alors, ce dont on va parler, mais, disons, dans les prochaines minutes, il va être question, disons, de la pratique culturelle, puis de son rapport avec l'identité culturelle des Québécois. Un deuxième temps, nous allons voir le déclin des pratiques de type classique et l'émergence de l'éclectisme. L'éclectisme, en fait, c'est la diversité des pratiques. Comment, maintenant, les pratiques culturelles se présentent sous forme très diversifiée et multiforme dans tous les secteurs d'activité. Et ça fait suite, bien sûr, à des changements de valeurs dans la société québécoise à l'égard de la culture, mais aussi à l'égard de la société en général. Puis, nous allons arriver au plat de résistance. Quelles sont les transformations selon les groupes sociaux? Ici, nous allons nous limiter à deux points bien particuliers. les transformations au niveau générationnel, puis les transformations au niveau des communautés linguistiques de Montréal. Parce qu'en fait, compte, à l'extérieur de Montréal, la problématique est plus difficile à cerner. Mais nous allons nous limiter à Montréal concernant cette problématique. Pour enfin déboucher sur, si on peut appeler, quelques enjeux auxquels nous pourrons débattre. Donc, la transformation rapide de la pratique culturelle à la fin du 20e siècle. Il faut dire que le Québec, à la fin du 20e siècle, est passé de ce qu'on pourrait appeler d'une structure hiérarchique traditionnelle à une société postmoderne. En fait, ceux qui ont une certaine mémoire, la mémoire un peu plus longue, se rappellent de la Révolution tranquille, comment cette révolution a été l'occasion pour le Québec d'entrer dans la modernité et comment, par la suite, toute l'idéologie du développement a transformé la société québécoise. Au plan de la culture, ça s'est manifesté par ce qu'on pourrait appeler un idéal de démocratisation de la culture. Un idéal qu'en fait, compte, il faut l'avouer, on avait emprunté en partie à la France et qui voulait démocratiser ce qu'on pourrait appeler les beaux-arts, la littérature et le patrimoine. Donc, une certaine notion de culture qui était héritée, en fin de compte, de l'aristocratie et plus tard de la bourgeoisie et qu'on a fait nôtre ici au Québec. Donc, dans une période où la société change, connaît des bouleversements énormes, on adopte un schéma de développement culturel qui est plutôt traditionnel. Donc, une certaine, pour ainsi dire, incompatibilité entre un schéma de développement culturel puis la transformation radicale de la société québécoise. On pourra en discuter plus tard sur si c'est vraiment, là, c'est, ça a été les bons choix. Un autre point sur lequel il est important de rappeler, c'est que la pratique culturelle est formatrice d'identité. On pourrait parler de l'identité culturelle des Québécois à partir de nos grandes institutions. Par exemple, ici, la bibliothèque. La bibliothèque, c'est quand même un fleuron. C'est quelque chose dans lequel les Québécois se reconnaissent, ils sont fiers. On pourrait partir aussi de ce qu'on pourrait appeler nos artistes. On est fiers de nos artistes, ils nous incarnent, ils nous représentent, et nous sommes heureux de voir comment ils incarnent nos valeurs, comment ils nous représentent à l'extérieur du Québec. Donc, on aurait pu partir de cela. Mon choix a été différent. Je préfère partir du citoyen. Comment le citoyen, dans sa vie quotidienne, dans son menu culturel quotidien, il se forme, comment il se donne une identité, et comment cette identité individuelle, par la suite, se traduit au niveau public et donne une identité collective. C'est cela, en fait, ce dont il va être question. Donc, nous partons de la formation, de la construction sociale, de l'identité culturelle, d'une identité, ce que j'appelle citoyenne. Comment le citoyen, comment par nos gestes de tous les jours, on forme une société culturelle. Et comment on vote par nos gestes à la construction sociale de nos institutions. C'est un peu ça qu'il va être question. Alors, le déclin des pratiques de type classique. En fait, elles sont définies à partir de ce qu'on pourrait appeler, comme je le rappelais tout à l'heure, de la culture artistique, littéraire et patrimoniale. Puis, on peut la mesurer à partir d'une série d'activités qu'on peut repérer dans les enquêtes que j'ai menées depuis 30 ans. Donc, mon matériel de lecture, d'observation de la société québécoise, quand même, est assez réduit, mais tout de même, il offre l'avantage de pouvoir avoir une lecture sur une période quand même assez longue, sur 25 ans. Et de voir, en fait, compte qu'il y a eu des transformations profondes au niveau de la société québécoise quant à ses valeurs. Si on regarde maintenant, ici, là, je vais vous demander de ne pas porter attention, disons, s'il y a des chiffres, de ne pas porter attention aux chiffres. Regardez simplement les graphiques. Ils illustrent, ils parlent d'eux-mêmes. Et l'aspect visuel, je pense bien, en dit beaucoup, plus que les chiffres eux-mêmes. Alors, ce qu'on voit ici, ça représente le déclin des pratiques de type classique. Donc, lecture, fréquentation des institutions culturelles, musées, bibliothèques, librairies, tout ce genre de choses, toutes les institutions qui étaient valorisées auparavant par l'élite et par nos grandes institutions culturelles et du savoir, comme les universités, les collèges, le collège classique notamment, et même l'Église. Ce que l'on voit, c'est que de 79 à 89, on voit une augmentation de la participation de la population à ce genre d'activité. Ça correspond aussi à la montée du nationalisme, à la montée de la formation d'un sentiment identitaire, d'une fierté québécoise à l'égard de sa culture. Mais c'est une culture qui est largement locomotivée, si je peux parler ainsi, par les pouvoirs publics, par le ministère des Affaires culturelles à l'époque. Donc, jusqu'en de 79 à 89, on voit une sorte d'adhésion de la population québécoise aux valeurs plus traditionnelles de la culture. Par après, 89 à 2004, c'est la dernière année d'observation, on voit là un certain déclin. Déclin de la population quant à la diversité de son activité pour ces formes de participation. Donc, ici, ce déclin ne veut pas dire un déclin de participation, un déclin d'intérêt pour la culture. Il signifie plutôt une diversification. À partir des années 90, développement de l'industrie culturelle, développement des médias, développement des technologies de l'information et de la communication. Donc, un nouvel univers s'ouvre et donne lieu à une culture différente. C'est ce que j'appelle l'éclectisme ou la diversification des pratiques. Cette diversification des pratiques, en fait, amène ou est occasionnée en partie par un changement des valeurs, c'est-à-dire les valeurs postmodernes de la société québécoise, qui, là, à ce moment-là, mettent moins de distinction entre les formes nobles et élevées de l'art et des pratiques plus populaires, mais une sorte de nivellement, en fait, des différentes pratiques. Les différentes pratiques, maintenant, ont tout droit de citer, que ce soit le rock, que ce soit le rap, que ce soit l'opéra, elles ont tout droit de citer. Alors, on assiste à une sorte de dilution des frontières symboliques entre les groupes sociaux. À preuve, les personnes qui vont au concert classique écoutent aussi les téléromans. Elles vont lire des romans d'amour, des romans sentimentaux. Elles vont participer à des festivals. Donc, ce qui auparavant formait ce qu'on pourrait appeler la culture distinctive de certains groupes sociaux, maintenant, ça se dilue au profit d'une certaine diversité occasionnée, notamment par l'industrie et les communications. Maintenant, les groupes sociaux se distinguent moins maintenant par ce qu'on pourrait appeler un corpus bien identifié de pratiques que plutôt par l'éventail, la diversité. On veut goûter à tout. On veut goûter à toutes les formes de culture, à tous les modes d'expression, à tout ce qui se fait. Puis ça, c'est localisé principalement chez certains groupes sociaux, notamment les jeunes, les étudiants, etc. Puis c'est pas un courant qui est particulier au Québec. On le retrouve aussi en France, aux États-Unis, dans les endroits où il y a des études qui peuvent, en fait, mesurer l'évolution des pratiques culturelles sur un certain temps. Puis cette éclectique, bien là, je passe sur la manière dont je l'ai mesurée, en fait, compte. C'est à partir d'une série d'activités, mais 55 activités qui mesurent à la fois ce qu'on pourrait appeler des loisirs domestiques, des loisirs engagés et des loisirs qui ont lieu sur la place publique, dans les endroits publics. Si maintenant, on regarde au niveau des groupes sociaux, ça, c'est important, ça. Ici, là, vraiment, là, c'est le cœur, c'est les enjeux qu'on peut voir dans les prochaines minutes. On voit qu'au niveau des pratiques de type classique, ici, là, c'est concentré au niveau des bébés boomers. Ici, là, c'est très fort. Le zéro aussi, faites-vous-en pas, c'est pas une note zéro. C'est la moyenne québécoise. Donc, c'est pas dramatique. Mais, ça veut dire que les bébés boomers, ce sont eux, ici, là, qui supportent la culture de type plus classique. Et les jeunes, ici, on voit qu'ils sont sous la moyenne. Donc, une sorte de décalage entre ce qu'on pourrait appeler les bébés boomers et les jeunes, et la population plus âgée, ici, qui, elle, est vraiment un peu... qui a passé à côté de ce qu'on pourrait appeler la réforme scolaire, la démocratisation de la culture, et aussi qui est plus âgé et dépourvu à bien des égards. De l'autre côté, maintenant, si on regarde les pratiques plus éclatées, là, on voit qu'elles sont localisées chez les jeunes, moins parmi la population plus âgée. Donc, on assiste à ce qu'on pourrait appeler une sorte de clivage intergénérationnel au niveau de la culture. Une culture un peu plus homogène, centrée sur un certain nombre de valeurs plus traditionnelles. Et de l'autre côté, ici, des jeunes avec la diversité des pratiques, avec ce qu'on pourrait appeler une sorte d'égalitarisme dans leur choix et le désir de participer à tout. Donc, on pourrait dire que d'un côté, il y a une opposition entre l'opéra et le rap. En fait, au niveau des choix de société, mais aussi, plus fondamentalement, entre une civilisation défendue par les baby-boomers et une autre par les jeunes. Opposition, donc, une sorte de, ce qu'on pourrait appeler, de clivage entre générations, mais aussi entre civilisations, deux civilisations qui s'affrontent. Ici, au niveau des baby boomers, le pouvoir culturel, l'argent, le temps, on domine les institutions. Ici, un peu la marginalité, l'underground. Donc, je mets la table ici pour la discussion. Maintenant, venons-en au niveau des communautés linguistiques. Lorsqu'on regarde la participation selon les groupes linguistiques, les allophones participent moins aux activités culturelles que les francophones et les anglophones. Bien sûr, il peut y avoir une question, disons, du fait que ce sont des arrivants plus récents. Ça peut être un élément explicatif. Mais tout de même, ce qui est intéressant de noter, c'est que leur participation plus faible se manifeste principalement de ce qu'on peut appeler les lieux publics de la culture. Donc, dans les lieux où la citoyenneté culturelle peut s'exprimer. C'est là que les allophones sont moins présents. C'est là un autre enjeu pour Montréal, ici. Alors, si on regarde de façon le graphique, on voit que les francophones et les anglophones sont nettement au-dessus de la moyenne et les allophones en dessous. Maintenant, si on regarde le même phénomène, mais vu au niveau de l'immigration, on peut dire que les personnes qui sont issues de l'immigration ont des pratiques culturelles variables selon que les parents, un ou deux parents, proviennent de l'immigration. Lorsqu'il y a un seul parent, à ce moment-là, la pratique, la participation est beaucoup plus intense, comme si la mixité au niveau du microcosme familial incitait, faisait le pont entre les cultures. Mais lorsque les deux parents proviennent de l'immigration, là, à ce moment-là, c'est comme si on assistait à une sorte de repli sur les communautés, sur la culture d'origine. Donc, il ne faut pas généraliser au niveau des allophones. En fait, compte, dépendamment de leur plus ou moins intégration sociale à la société québécoise, également leur participation publique à la vie culturelle se modifie. Eh bien, les francophones et les anglophones sont ici depuis longtemps, en fait, quand ils ont fait leur territoire, ils ont établi leur territoire et ils sont bien présents dans les lieux publics. Donc, je vais rapidement, là, au niveau des enjeux, je rappelle tout ce qu'on a vu, le vieillissement, disons, des publics est une conséquence du déclin de la culture classique qui est concentrée parmi les bébés-boomers. Ça pose le problème du renouvellement des publics de nos institutions artistiques et culturelles. Ça pose également le problème de la place des jeunes avec le renouvellement des pratiques culturelles par l'industrie et des médias, donc une sorte d'affrontement des cultures sur la scène publique. Également, les contenus culturels sont différents, mais aussi, derrière ça, il y a un pouvoir culturel sur la place occupée dans la société. Puis, la place occupée au niveau des institutions et au niveau, par exemple, des jeunes, quelle place on leur accorde. Puis, concernant les communautés culturelles, bien, comment faire pour que la citoyenneté culturelle, en fait, compte, puisse s'exprimer publiquement à part entière pour toutes les communautés, qu'elles soient francophones, anglophones, allophones, qu'on soit nouvel arrivant ou qu'on soit arrivant, disons, de longue date. Donc, cancre au premier de classe, que serons-nous demain? Que sera notre bulletin demain? Je pense bien que c'est à nous à le faire. Merci.
Alors, je pense qu'il a mis la table. Et pour vous et pour M. Barsalo, c'est donc à vous, M. Naclé. Alors, on entend votre réponse à cette question et vos observations.
Ça introduit parfaitement mon intervention qui est moins académique, moins précise, mais qui est plus un témoignage, le récit résumé d'une expérience qui est le Festival du monde arabe de Montréal. Il y a trois points, à mon avis, qui sont intimement liés aux questions de la diversité des pratiques culturelles au Québec, parce qu'on parle, quand on parle d'identité culturelle et de culture québécoise, on ne peut pas contourner donc cette question de la diversité. Donc, en tant que fondateur et directeur artistique du festival, j'ai trois points à évoquer avec vous. Pourquoi le FMA? Pourquoi il y a eu ce festival? Pourquoi cet événement persiste à se définir comme un événement foncièrement québécois, donc avec une identité québécoise, et dans quelle mesure cette présumée identité se réalise dans une vision et dans des pratiques. Deuxième point, se voulant un espace artistique dédié à la rencontre, à la production d'œuvres innovatrices issues de la diversité, le FMA ne peut d'aucune manière contourner la question épineuse, problématique, mais quand bien fondamentale, de la diversité culturelle. Est-ce qu'il y a une possibilité de jonction entre le besoin collectif et je dirais même national d'une représentation identitaire commune et l'impératif démocratique et moderne de la diversité culturelle? Troisième point, quelles sont concrètement les difficultés et les contraintes identifiées toujours à travers l'expérience du FMA qui empêchent l'émergence de pratiques culturelles et artistiques québécoises issues de la diversité qui s'intègrent harmonieusement au sein de cette culture québécoise dite commune? Pour ne pas trop remonter à une histoire très ancienne, je veux dire brièvement qu'il fut un temps où l'Occident s'est ravivé au contact d'une culture arabe vigoureuse. Vint un temps aussi où cette même culture s'est régénérée à son tour par sa confrontation avec la modernisation ou la modernité occidentale. À la fin du XIXe siècle, quelques milliers d'Arabes s'étaient retrouvés par hasard en Amérique, aux États-Unis. Je cite entre eux Khalil Gibran, l'auteur du Prophète, Mikhail Naimi, beaucoup d'auteurs qui ont constitué un mouvement littéraire et artistique arabe qui a bouleversé la pensée arabe moderne, politique et culturelle du XXe siècle. Donc, ce choc des cultures qu'on regarde aujourd'hui avec beaucoup de méfiance a été à un certain moment un choc nécessaire mais aussi fructueux. Mais anémié, alimenté par de multiples conflits, ce rapport entre les deux mondes semble aujourd'hui dans l'équivoque. L'Occident en pleine crise de sens et le monde arabe toujours en quête d'une fuyante renaissance s'affronte dans un repli identitaire et dans une dualité sourde. La dualité se vit à tous les niveaux, politique, culturel, social, en témoigne la guerre, le fanatisme, tout ce qu'on voit à la télé. Mais ce qui est important, c'est qu'au-delà d'une mondialisation, parce qu'on parlait de mondialisation, qui n'envahit que les marchés, la communauté, l'individu, le vivre ensemble, le droit, la famille, la religion, le savoir et les lois revêtent un sens tout autre selon que l'on regarde d'ici ou de là-bas. Toutefois, pour quiconque s'engage dans une dynamique de réflexion et de dialogue, cette même dualité peut devenir substance. Substance de questionnement, de recherche, en vue de l'assumer, de l'affronter et de la dépasser. C'est cela le Festival du monde arabe de Montréal. Donc une action engagée par des Québécois et des Québécoises, traversée par la tension de la dualité, ou aussi intéressée par ses répercussions et par ses mutations de plus en plus tragiques. Le FMA puise volontairement sa vision dans une zone très riche, dans cette zone de la dualité, Occident-monde arabe, tradition-modernité. Il se veut donc une plateforme pour une dynamique de reconnaissance et d'écoute, placée sous le signe du sérieux, du courage et du véritable engagement. Au-delà des prophéties de malheur, au-delà des sondages fast-food, notre propre expérience au FMA nous confirme que le Québec peut être aujourd'hui l'unique lieu en Amérique du Nord d'une ouverture réelle vers cette culture arabe. Une culture qui est maintenant plus que jamais prête au renouvellement. Dans cet espace québécois où cette culture est reçue comme invitée et non pas comme une culture intruse, étrangère, menaçante, s'insère le FMA. Son équipe croit profondément que l'utopie de la rencontre, l'idéal de la rencontre, est à la fois, et ça c'est très important, un exercice de citoyenneté et un stimulant de créativité. L'interculturalité est inscrite dans la société plurielle qu'est le Québec. Une société qui ne peut rester fidèle à ses propres valeurs universelles que dans la mesure où elle reste perméable à l'autre. De cette perméabilité naît la dynamique de fertilisation qui fait de la différence une complémentarité. Donc le FMA se veut un espace où on interroge toutes les cultures. La culture arabe, mais aussi la culture occidentale. Le même regard interrogateur posé sur notre culture occidentale et nord-américaine, à qui, et là j'insiste, l'on se doit de faire valider à tout moment sa capacité d'accueillir la différence et tourner vers d'autres cultures qui s'engourdissent et se replient sur elles-mêmes, autant qu'elles réussissent aussi magnifiquement à sauvegarder leur richesse esthétique traditionnelle. Il s'agit là d'une démarche qui peut déranger, car elle bouscule les acquis et amène à réfléchir aux défis que pose la modernité en tant qu'espace pluriel. Donc, à mon avis, dans le contexte actuel, mondial, il est nécessaire de concevoir une nouvelle vision, proprement québécoise de la pluralité, une vision qui rend le devenir solidaire des singularités possible, de repenser les politiques et les actions gouvernementales qui devraient permettre concrètement de mettre en commun des divergences, des différences, des peurs et des jugements. Comment cela est-il possible? La seule solution, c'est d'encourager et de favoriser la création d'espaces de rencontre qui œuvrent pour une véritable interculturalité, active et critique, avec les risques que cela comporte, afin de confronter, questionner et déconstruire des discours apparemment antagonistes et par conséquent de favoriser une véritable convergence. Donc, la pertinence de ces espaces de rencontre, c'est précisément d'inscrire dans la réalité vécue et exprimer une vision conséquente et consistante d'un Québec à la fois pluriel et unique, capable de conjuguer et non seulement de superposer les écarts dans les goûts esthétiques, dans les coutumes, dans les besoins biologiques ou autres, dans tout ce qui fait la différence. Tout échange interculturel consiste et s'institue et prend place d'abord dans des espaces réels de rencontre et nécessite une perte de souveraineté. Et la culture est principalement et restera toujours dialogique, paradoxalement une et plurielle. Mais comment identifier ou édifier de tels espaces? Quelle définition pourrons-nous donner à ces espaces-là? Comment les soutenir concrètement? Quels enjeux sont-ils sous-tendus en termes d'identité, d'altérité ou de diversité? Bref, pour finir, à chaque édition, l'un des objectifs majeurs du FMA est de renforcer sa pertinence et son rayonnement tout en gardant le cap sur sa créativité et sa vision originale. Entre les résultats très positifs de la fréquentation et l'analyse de notre sondage annuel, le tout mesuré à l'envergure et à la qualité de la couverture médiatique, notre conclusion est que l'événement est une belle réussite, confirmant de plus en plus son statut de manifestation artistique québécoise d'envergure au sein d'une métropole tout aussi unique et plurielle. Toutefois, nous tenons à signaler, et ça c'est très important, que malgré le succès sans cesse avéré de ces réalisations, notre organisme souffre d'un sous-financement chronique et que on a fait état de ces difficultés par les passés, dans une politique de transparence. Notre équipe a misé sur le temps pour que l'organisme soit reconnu et soutenu à sa juste valeur. Mais les ajustements espérés ont tardé à se concrétiser, notamment avec des soutiens peu conséquents de la part des instances devant soutenir la culture. Ce manque à gagner, qui se traduit par un événement porté à bout de bras, des budgets déficitaires, une structure de base fragilisée, compromet la pérennité et le développement du FMA. Pas seulement du FMA, mais de toutes les initiatives qui ressemblent au FMA. Il est temps que ces initiatives puissent constituer une véritable colonne vertébrale qui leur permet définitivement et sans risque de poursuivre leur cheminement, de grandir dans l'innovation soutenue par ceux qui y croient et de consolider ces places acquises si laborieusement. Nous espérons que les nouvelles pratiques culturelles et les artistes surtout et organismes qui y œuvrent seront mieux appuyés dans un proche avenir, faute de quoi tout l'effort que nous produisons depuis quelques années sera perdu et se transformera en véritable gaspillage. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Nathalie. Oui, alors, voulez-vous changer de place avec notre ami, Monsieur Garon? Oh, vous allez, Monsieur Garon, il me dit qu'il peut être debout au podium si vous voulez rester à votre place. Ça vous dérange pas? Vous êtes sûr, Monsieur Barcelo?
Oui, très bien.
Très bien. Bon, encore une fois, quelqu'un a aussi mis un bout de table pour vous, j'ai l'impression. Monsieur Barcelo, n'est-ce pas? En entendant parler des jeunes issus des différents horizons culturels et qui sont aujourd'hui des êtres qui, au plan des nouvelles technologies, sont pas mal moins dinosaures que d'autres devant vous. Et je sais que c'est un peu de ça qu'il va nous parler. Là, il cherche sa présentation. C'était passionnant, M. Naclé et M. Garon, vraiment. De l'aide, s'il vous plaît. De l'aide.
Merci.
L'aide des saints.
C'est la première fois que je vois un clavier où il n'y a pas de touche escape.
Ah, c'est une particularité de la grande bibliothèque, peut-être. Ouais, je ne sais pas. Il n'y a pas de.
Je veux me sortir.
Alors là, vous vous fourbissez vos questions, je suis sûre, je suis persuadée. Ça va?
Oui.
Alors
bien.
C'est à vous, vous avez 10 minutes.
J'ai 10 minutes, parfait. Alors bonjour tout le monde, je suis très heureux d'être ici et je suis très heureux des présentations qui ont été faites. Je pense qu'on est vraiment dans un bon lien, tout le monde ensemble. Juste 2 secondes, si vous me permettez, pour expliquer la Société des arts technologiques. La majorité des gens, connaissent pas malheureusement la Société des arts technologiques. Je dirais qu'on est souvent plus connu à l'international qu'à Montréal, et c'est ce qu'on essaye de changer depuis les 2 dernières années. Alors, la Société des arts technologiques était fondée en 1996. On fête notre 10e anniversaire cette année. Et pour... En fait, Montréal, à cause de la SAT, est un des plus importants centres d'art technologique au monde. Il y a eu une rétrospective il y a 3 ans par un grand festival international en art technologique qui s'est tenu au Musée d'art moderne à New York. Et on était un petit peu gênés de voir que la majorité des œuvres qui étaient les œuvres récipiendaires présentées au courant de ces différentes années de festival-là venaient de Montréal. Alors que la majorité, il y a beaucoup de gens dans le monde de la culture au Québec qui nous posent encore la question sur qu'est-ce qu'on fait là et c'est quoi notre objectif. La SAT est une communauté, c'est un OSBL, c'est un centre à but non lucratif, qui a été formé par des artistes au départ, qui sont encore extrêmement actifs à l'intérieur, et on regroupe un noyau de gens qui sont abonnés à nos systèmes d'information, au-delà de 6500 membres réseautés, dont la majorité sont des natifs du numérique. Alors je vais peut-être un peu aller sur la présentation de M. Garon. On parle de... On parle de mass-média, on parle de natifs du numérique. J'ai réalisé que la majorité des gens dans la salle ici, on est natifs des mass-médias et on a peut-être oublié qu'avant les mass-médias, il y avait de la culture. Il y avait de la culture qui était participative, où les gens se rencontraient à la maison, faisaient du travail, des contenus qui présentaient aux gens du quartier. Et je peux pas m'empêcher de faire le lien avec toute la nouvelle frénésie de ce qu'on appelle le Web 2.0 aujourd'hui, qui est, c'est fantastique, les gens créent des contenus sur Internet et sont prêts à les partager avec les autres. Ben, ça ressemble pas mal à ce qu'on faisait il y a 100 ans. C'est juste qu'on a oublié que les masses médias, avant les masses médias, il y avait une vraie culture participative. Et personnellement, je suis extrêmement heureux que peut-être que les masses médias étaient juste une mauvaise passe. Et puis qu'on arrive un peu vers la fin, puis qu'on retourne à une culture participative. L'autre élément qui est important dans cette illustration-là, c'est que ça fait pas très longtemps, c'est un salon d'une maison, il y a à peu près 100 ans. Donc, ça, c'était la dernière génération qui est morte dans le même environnement dans lequel elle est née. Les gens sont... il y avait l'harmonium, il y avait les livres, il y avait exactement... Les parents qui sont nés dans cette maison-là, quand ils sont décédés, ont vu à peu près la même maison. La technologie culturelle changeait pas. Et donc, c'est juste pour dire qu'il y a énormément de traditions dans la création collective et en groupe. Ça m'a amené sur un point qui est une réflexion que je fais depuis quelques années. Je suis designer graphique et au milieu des années 80, j'ai passé à l'informatique rapidement parce que pour moi, c'était important. Je voyais tout à coup la possibilité de conserver l'information, la remanipuler et tout ça, ce qui était très différent avec l'édition qu'on avait avant. En tant que graphiste... Ouais.
Je sais pas. Prévu
dans votre ouais, en fait, je sais pas où il a téléchargé cette sonnerie-là, mais j'aimerais bien connaître le site. Donc, ce qui s'est passé, c'est que au milieu des années 80 est arrivé l'informatique, puis je trouvais intéressant tantôt ce que M. Garon disait, que de 89 à 94, il y a eu vraiment un changement. Je dirais pas que, pour moi, je pense que l'informatique y est pour beaucoup, l'interactivité, le fait que les gens puissent commencer à choisir, mais si je regarde les machines qu'on utilisait en 89, c'était pas tout à fait ce qu'on a aujourd'hui. Puis je me rappelle aussi que c'est la période où on est passé de 3 stations de télévision francophones à Montréal, avec tout à coup l'éclatement. Donc, le choix, la possibilité que les gens choisissent eux-mêmes. Donc, le message unique de dire « aller à l'opéra vendredi » ou « aller faire ci » ou « aller faire ça » se fractionne. Donc, c'est peut-être un des impacts. Mais moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de voir que quand je faisais des interfaces pour des entreprises, pour des sites web, au cours des 3-4 dernières années, de plus en plus, j'arrivais à... On m'a demandé de faire un site web intranet, mettons un site web pour que l'ensemble des employés puissent communiquer entre eux. Et là, à chaque fois que je venais pour présenter mes maquettes, les jeunes employés disaient « Oui, mais il te manque telle fonction, t'as pas de forum, t'as pas de site, t'as pas de chat, t'as pas toutes les nouvelles gadgets qu'eux autres venaient de découvrir dans les 6 derniers mois. » Puis les directeurs, eux autres, me disaient « C'est pas trop compliqué, je vois pas tout ce qu'on a besoin là-dedans. » Alors là, le fossé entre les deux s'agrandit. Et je me suis dit « Ça se peut pas que ce soit juste une question de compréhension ou d'argent ou de vision corporative où est-ce que la compagnie veut aller. » Et c'est là que je suis tombé, j'ai développé ce schéma-là. Moi, je suis graphiste, donc j'écris pas beaucoup, mais je dessine beaucoup. Et puis, avec Michel Cartier de l'Université du Québec, que je tiens à mentionner beaucoup ici, Michel Cartier qui a développé beaucoup de cette réflexion-là et que malheureusement, je trouve qu'on n'utilise pas assez au Québec, on a fait un schéma qui était basé sur les changements de technologie. Et Michel avait fait rapidement la fin du schéma. Puis moi, je suis revenu sur le schéma. Et c'est là que j'ai réalisé, mais mon Dieu, c'est la première fois dans l'histoire des communications humaines que ça fait 7 générations consécutives qu'on change de technologie. Okay? Si on revient, il y a 1700 générations, je l'ai fait à l'échelle, vous pouvez les compter, l'homme moderne émerge et commence à développer le langage. Donc, tout le monde dans la société était sur la même longueur d'onde parce que on enseignait à nos enfants et aux autres générations qu'est-ce qu'il fallait faire et on était tous sur le même modèle, entre guillemets, de communication. Tout à coup, il y a 300 générations, on a inventé l'écriture. Mais on l'inventait à un endroit, puis il n'y avait pas d'outils. Fait que de toute façon, même si ça me prenait du temps à intégrer cette information-là, le temps que je puisse l'enseigner au village d'à côté ou au pays d'à côté, ça prenait du temps. Donc, l'intégration se faisait doucement, sans trop que ça paraisse, puis on passait d'un système à un autre système. Il y a 35 générations, on développe l'imprimerie. Donc là, tout à coup, la première fois, les gens peuvent disséminer un peu plus l'information. Donc, une culture de masse commence à apparaître. Mais encore une fois, les livres voyagent par cheval et puis ils s'en vont d'un endroit à l'autre. Là, tout à coup, en 1910, j'ai fait une évaluation qui n'est pas la date de l'invention du télégraphe, mais qui est... À quel moment, si j'étais à l'école entre l'âge de 5 à 10 ans au Québec, j'ai appris qu'il y avait une nouvelle technologie qui s'appelle le télégraphe? Parce que c'est à ce moment donné-là qu'on apprend à apprendre et qu'on apprend à communiquer. C'est quoi les outils que je vais utiliser? Est-ce que je prends un téléphone? Est-ce que je parle? Est-ce que je vais rencontrer les gens? Est-ce que je vais convoquer un dîner? Toute l'interaction sociale et culturelle se forme à ce moment donné-là. Donc, si je suis allé à l'école en 1910, premièrement, le télégraphe, c'est une invention majeure parce que, selon ce que dit McLuhan, les médias électriques, c'est que c'est la première fois dans toute l'histoire que le message peut aller plus vite que le messager. Okay? Donc là, tout à coup, l'explosion arrive. Donc, le télégraphe, si je vais à l'école en 1925, on me dit, le télégraphe, c'est pas une nouvelle technologie, c'est vraiment dépassé, maintenant c'est le téléphone. Après ça, 15 ans plus tard, on me dit qu'il y a quelque chose qui est encore ben fantastique, qui s'appelle la radio, le cinéma parlant. En 55, je retourne à l'école, j'arrive à l'école, on va me dire, ah, ça c'est vieux, là, on a déjà la télévision puis les mass-médias. 15 ans après, on me dit, non, l'électronique vient d'arriver, on peut envoyer des messages par fax. 15 ans après, on me dit, non, c'est les PC, c'est la réseautique. Et aujourd'hui, on me dit, j'ai mon téléphone cellulaire, le web, je peux voir le web sur le cellulaire, etc., etc. Bref, Le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, l'enfant, tout le monde a appris avec des outils différents. Et faites le test dans votre famille, je veux dire, c'est évident. Les petits-enfants n'utilisent pas les mêmes outils pour communiquer. Avec M. Garon, on parlait tantôt, il dit, ben moi, il dit, quand je travaillais, je me déplaçais pour aller dire bonjour aux gens, alors que l'autre génération prenait le téléphone. L'avant-dernière, comme moi, on commence à écrire des emails, puis les jeunes, ben c'est SMS qui est ouvert tout le temps. Bref, les canaux de communication sont différents. Donc ça, pour moi, c'est important. Puis l'autre chose qui est arrivée, c'est que si je tourne mon schéma de l'autre côté, je me rends compte que dans une société, il y a pas, c'est pas une ligne du temps. On cohabite plusieurs générations. Et si on regarde aujourd'hui, j'ai beaucoup de réponses tout à coup qui m'apparaissent dans mon schéma, parce que là, je me rends compte que les gens qui dirigent les programmes de culturels et qui décident des investissements et des priorités viennent de la radio et du cinéma parlant. Leurs médias qui ont appris, c'est ça. Leurs conseillers viennent de la télévision et des mass médias, les directeurs viennent du fax et de l'électronique, alors que les employés, puis la génération qui s'en vient, elle vient de la réseautique, des PC, du cellulaire, et surtout, elle est dans un monde d'interactivité, alors que l'ensemble du restant des décideurs sont dans un monde de mass médias. Donc, on va nous passer un message, on va devoir prendre une décision, puis on doit la prendre à 7h30, parce qu'à 8h, c'est une autre émission. Alors que les jeunes, eux autres, ben, c'est comme je vais aller le voir tantôt. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que là, après ça, je me suis dit dans combien de temps ça va changer? Est-ce que j'attends je m'en vais en voyage pendant 10 ans, je reviendrai, tout le monde aura compris? Eh bien non, c'est pas tout à fait comme ça. Si je regarde les mises à la retraite des gens à droite, on en a peut-être pour un 15-20 ans où on va cohabiter plusieurs cultures générationnelles. Juste pour faire le pont avec ça, l'autre point aussi, c'est que j'ai découvert un chercheur américain qui, lui, a un terme très simple. Il dit, avant l'arrivée de l'interactivité, qui serait la ligne bleue foncée avec la partie grise en bas, on était dans un monde qui était non interactif. Et donc, on peut appeler que les jeunes aujourd'hui sont des natifs du numérique. Donc, c'est le terme que j'utilisais tantôt. En tant que natifs du numérique, nous, dans la salle, la majorité de la salle, on est des immigrants du numérique. En fait, c'est comme si on venait de changer de pays. Hein? On a adopté un nouveau pays, une nouvelle culture. On a appris la langue, mais on va toujours garder un accent. On va toujours conserver le fait que on appelle ça la preuve. On parle d'une diapositive. On parle de PowerPoint. En fait, il n'y a même pas personne qui a trouvé le nouveau terme. Demandez à la majorité des gens de 60 ans, ils vont regarder. Ah, ben ça, c'est comme une télévision puis un clavier de dactylo. Demandez aux jeunes de moins de 20 ans, c'est quoi une dactylo? Ils n'en ont même pas vu. Okay? Alors là, on a cette association-là qui bouge dans le temps très, très, très rapidement. Mais ce qui est clair, si on regarde ce schéma-là, c'est que la culture qui s'en vient, c'est une culture numérique. On est dans une période de mutation et on doit faire le pont avec la culture classique. À la SAT, on a trouvé différents trucs pour faire ça. Je reviendrai dans les périodes de questions, parce que j'ai pas assez de temps pour ça. L'autre chose qu'on remarque, c'est que on est en train de modifier complètement, le modèle de diffusion culturelle. Tout le modèle de diffusion culturelle avant l'arrivée de l'interactivité et des réseaux est basé sur un modèle géographique et temps linéaire. La bibliothèque est ouverte de telle heure à telle heure. Le cinéma, il faut y aller vendredi à 7h. Oui. Donc, tout ça, le fait qu'on vit dans un monde de produits physiques, de lieux, de livres, de produits, en fait, qu'on a développé des règles de distribution culturelle qui sont basées sur le marché géographique et le temps. Je vais vous donner le droit de distribuer mon produit en Europe pour une période de 2 ans dans tel lieu. Je vais puis l'autre chose aussi qui est importante, c'est que le citoyen qui est au centre ne peut que consommer dans ce monde-là que ce qui lui est facilement accessible. Si ça lui est pas accessible, il sait même pas que ça existe. Ok? Alors, tout à coup, on est en train de passer rapidement depuis les 5 dernières années ou la dernière génération avec un monde où le réseau est apparu. Et là, tout à coup, on a une autre dimension complètement nouvelle qui cohabite avec l'ancienne. Alors, ça explique pourquoi on est si perturbé et si on a tellement de difficultés à bouger à l'intérieur de ça. Sauf que le citoyen, maintenant, par l'arrivée des canaux satellites dans un premier temps, par l'arrivée du web, et nous, ce qu'on pense à la SAT, c'est en branchant les lieux culturels ensemble, va pouvoir commencer à consommer a déjà commencé à consommer des contenus qui ne sont pas localement disponible. Alors ça, ce que ça fait, c'est qu'on rentre dans un marché numérique. Je rappelle à tout le monde que 99% des produits culturels qu'on consomme aujourd'hui ont été créés sous un format numérique au premier niveau. Il n'y a pas un livre qui n'a pas été fait sur ordinateur aujourd'hui. Les films sont faits sur ordinateur, mais on doit les transférer sur pellicule parce que la salle, c'est le seul système qu'elle a pour le diffuser. Mais il manque pas grand-chose à ce qu'on la diffuse numériquement. Donc, on tombe dans un marché numérique en temps réel, qui peut fonctionner différé ou sur demande, et tout à coup, le consommateur a accès non seulement à ce qui est local, mais il a accès à ce qu'il va avoir au niveau international. Donc, la mixité des cultures, comment on communique à l'intérieur de ça, va devenir un enjeu extrêmement important, parce que à terme, peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, dans le fond, on va avoir une culture locale qui va être très humaine, se déplacer dans les lieux, aller rencontrer les gens, mais le lieu et notre espace mental culturel peut être connecté avec n'importe où sur la planète. Je voudrais juste terminer sur le fait qu'on parle beaucoup de l'aspect international d'Internet, mais j'étais frappé qu'on disait qu'il y avait 9 villes qui réfléchissaient ensemble. Nous, on travaille très fort à la SAP pour... On se dit, on est dans un monde d'écran, mais il n'y a rien qui empêche Internet de relier le système audiovisuel, la caméra qui est là, et vous avec les 8 autres villes en l'espace d'une fraction de seconde, en fait de millisecondes. Merci.
Merci beaucoup. En effet, quel beau trio. Alors, au fond, tous les trois, vous avez à peu près parlé à des degrés divers du monde dans lequel nous vivons, qui est un monde en tension, qui est en plein renouvellement, culturel notamment, un choc de civilisation. Monsieur Garon a été comme le premier à parler de ce clivage entre les générations, le clivage entre les allophones et les francophones et anglophones. Et je reprends l'idée de Monsieur Naclé qui disait on n'a pas d'autre moyen de s'en sortir que de créer des espaces de rencontre. Alors peut-être que c'est la réponse à ma question, mais ma question c'est comment, et vous avez tous à peu près, peut-être sauf M. Naclé, parlé de ce vieillissement qui s'opère et dont nous sommes des minorités très visibles, une majorité très visible, devrions-nous dire, comment on fait pour travailler et construire ensemble des pratiques culturelles, faire de la culture ensemble entre ces générations-là. Est-ce que c'est possible, Monsieur Barcelo?
On parle de vieillissement, mais on pourrait aussi parler de rajeunissement.
C'est bon, ça. Sans botox, vous voulez dire, là?
C'est que on est omnubilé par le fait que tout le monde vieillit, mais ça, c'est rien de nouveau, là. Comme je le démontrais tantôt, moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est que quand j'ai été donner une conférence à Québec l'année dernière au Forum des communicateurs du gouvernement, il y avait la moitié de la salle qui avait 50 ans et plus et l'autre moitié de la salle qui avait 30 ans et moins. Et là, il y a eu comme... Ils ont pas engagé personne pendant 15-20 ans. Et là, tout à coup, je pense que là, il va y avoir des ponts très importants à construire. Mais la chose qui se passe, c'est qu'on met beaucoup, beaucoup, comme je montrais tantôt, la majorité de l'establishment de gestion culturelle et âgé. Mm-hmm. Donc, eux voient ça comme une menace, le fait qu'il y ait un vieillissement. Mais il n'y a pas assez d'espace ouvert pour que les jeunes puissent participer à cette reconstruction-là. Et ça, pour moi, c'est majeur. Et à la SAT, ce qu'on a fait, on a fait, entre autres, un événement qui s'appelait le Technopéra. Technopéra, on l'a fait avec l'atelier de l'Opéra de Montréal.
De l'Opéra de Montréal.
Et ils avaient un problème, c'est que, effectivement, comme vous dites, les parents se sont mis à donner des billets de saison aux jeunes adultes, mettons 20 à 30 ans. Et là, j'imagine la réaction du jeune adulte à Noël qui dit « Ah ouais, bon merci, j'ai reçu
un
billet d'opéra. » Ouais, okay. Alors, ils venaient pas. Il donnait des billets, mais il venait même pas au spectacle. Alors, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a combiné des chanteurs d'opéra avec des DJ VJ. Et le premier lundi de chaque première de Opéra, on organisait une session, une soirée à la SAT, où les jeunes étaient invités, ben les jeunes, c'est pas des adolescents, là, les jeunes adultes étaient invités à venir à la SAT et assistaient à une présentation multimédia de 15 minutes qui expliquait le thème de l'opéra, c'est quoi les grands éléments de cet opéra-là, c'est quoi les morceaux de musique que vous reconnaissez, que vous savez pas que ça venait de là. Et après ça, les chanteurs ont accepté que leur voix soit manipulée par les DJ. Wow. Et il y avait toute une mise en scène qui était proche de la culture des jeunes, mais avec le contenu de l'opéra traditionnel. Et là, ils ont compris. Ils comprenaient la musique, ils comprenaient l'histoire, et on leur a donné le goût. Après ça, ils disent, ben là, c'est tant que j'ai compris, j'aimerais savoir comment ça a été conçu initialement. Donc, ça devient plus comme une culture qui est importante.
Ouais. Oui, Monsieur Garon, vous voulez répondre à ça parce que...
Bien sûr, il y a un rajeunissement. Il y a un rajeunissement de la création. Il y a un rajeunissement, en fait, des pratiques chez les jeunes. Mais le problème, c'est que, au plan social, l'espace est occupé par la génération des bébés boomers. Le pouvoir culturel est occupé par des personnes qui ont une mentalité, qui ont une vision de la culture qui est différente de celle des jeunes. Et ça confine les jeunes à l'underground. Ça confine les jeunes dans des lieux qui ne sont pas institutionnalisés. Ça confine les jeunes avec des ressources que n'ont pas les institutions. En fin de compte, on se trouve à avoir une tension sociale à propos d'enjeux culturels liés, en fait, à des contenus différents, mais contenus différents qui sont monopolisés, en fin de compte, par des groupes sociaux différents. Mm-hmm. Et c'est là que je vois le problème. Mm-hmm. Comment arriver à reconnaître, en fin de compte, la culture des jeunes qui émerge, qui éclate, qui s'exprime sous toutes les formes, puis les festivals, en fin de compte, c'est la meilleure forme, en fin de compte, d'expression d'une participation ou qui correspond aux nouvelles sensibilités des jeunes. Maintenant, les jeunes, ils n'aiment pas assister à un spectacle où ils vont regarder quelque chose, écouter de façon attentive. Ils n'ont pas été habitués à ça. Moi, d'accord, quand j'étais jeune, on disait « écoute ». Puis à ce moment-là, j'étais formé pour écouter un concert. Le jeune, lui, qui va à un concert, qui va, disons, à une soirée rave, amenons-le à une salle de concert, essayons de le maîtriser, il ne sera pas capable. Il faut qu'il bouge. Donc, c'est d'autres sensibilités, d'autres formes d'expression. Puis, le festival, maintenant, je le vois, disons, je n'ai pas parlé, mais le festival, c'est un lieu qui permet, justement, maintenant, de nouvelles formes d'expression qui rompent, qui sont en rupture, d'une certaine manière, avec les formes plus traditionnelles et qui conviennent aux cultures plus jeunes.
Au nouveau foisonnement culturel.
Mais tout ça, là, pour dire qu'il y a quand même un problème fondamental qui est une question de pouvoir.
Oui, vous avez raison. Avant de donner la parole à M. Naclé, parce que je sais qu'il veut mettre son grain de sel, je vous inviterai, mesdames, messieurs, à vous diriger vers un des deux micros. J'imagine que vous avez des petites questions quand même. Oui, merci madame. Alors, M. Naclé, allez-y, vous voulez réagir, vous aussi, à ça?
C'est tout simplement pour dire que souvent, la solution proposée à la question de vieillissement, c'est l'immigration. Donc, il faut regarder aussi ce problème de vieillissement à travers cet angle-là. Comment ces jeunes, et c'est une population immigrante jeune, donc quel espace donner, offrir à ces jeunes-là qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans les lieux publics de la culture québécoise, comment leur offrir des espaces qui les ramènent à intégrer la culture québécoise dite commune. Donc, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que les politiques gouvernementales consolide, oui, renforce des lieux de reproduction identitaire, les églises, les mosquées, les associations culturelles très communautaires, ghettoisées, etc. Donc comment faire? Parce que en fait, qu'est-ce qui peut amener ces artistes là à joindre le milieu culturel et artistique québécois? Et qu'est-ce qui fait aussi qu'ils ont un rôle primordial dans la création d'une culture québécoise qui se renouvelle, oui, c'est qu'ils sont des médiateurs, c'est les traducteurs, c'est les passeurs d'une culture à une autre. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur cette problématique de l'immigration des jeunes et comment pouvoir les intégrer en créant des espaces de rencontre comme le Festival du Monde Arabe, comme Nuit d'Afrique, comme tant d'autres initiatives qui permettent à ces jeunes-là à se reconnaître dans les initiatives, dans la culture québécoise commune.
Oui, merci beaucoup. Madame, nommez-vous, s'il vous plaît.
Catherine Voyer-Léger. Pardon. Je travaille à la Conférence régionale des élus de Montréal, entre autres sur la question de la culture et des jeunes. Et là, je voulais faire un peu des ponts entre ce que tout le monde a dit. Je rejoins beaucoup toute l'idée de l'espace public. Donc, c'est sûr que je pense que la clé est toujours au fait d'intégrer le plus de gens possible dans cet espace public culturel. Je rejoins aussi toute la question que finalement, quand est-ce qu'on apprend à communiquer? C'est, vous avez dit entre 5 et 10 ans, bon, mais disons tôt dans l'enfance. Alors, je pose la question à M. Garon. Est-ce que c'est moi qui cherche mal ou il n'y a pas d'études au Québec sur la fréquentation des arts et de la culture pour les moins de 15 ans?
Bonne question. Oui.
En fait, c'est un problème. Cette question, disons, de la culture des jeunes, il y a très peu d'études qui sont faites. La dernière qui a été faite à ma connaissance date de 1994 et j'y étais.
Donc, bon. En gros, mon message, c'est ça, c'est que je cherche depuis un mois et je ne trouve rien. Et je me dis, si on veut trouver la façon de créer des ponts vers cet espace public-là, il faudrait peut-être justement arrêter, je veux dire, on peut bien poser la question à tous les directeurs d'institutions, mais qui sont toujours des gens de l'autre génération, et trouver un moyen d'avoir une étude sérieuse, parce que j'ai trouvé, évidemment, puis tout le monde a son avis, on a tous notre avis sur les écrans, sur ce que la télé pose comme problème, mais on a tous notre avis de jeune adulte ou d'adulte plus vieux, mais finalement, on a très peu de données quand on essaie de travailler concrètement.
Maintenant, il y a le CEFRIO qui a fait quand même, voilà, un an ou deux, un petit sondage sur les jeunes. Ça touche Internet, mais il y a aussi des questions concernant la culture plus traditionnelle. Donc, concernant la culture des plus jeunes, là, disons les moins de 15 ans, il y a le CEFRIO qui offre quand même quelques données. Mais on n'a pas encore d'études assez exhaustives là, qui permettraient de cerner l'univers culturel, l'univers de la représentation culturelle des jeunes. Ça, c'est un problème. En France, ils ont fait une étude sur les 16-14 ans. Ouais. Puis c'est vraiment intéressant parce que là, on est capable de voir quel espace culturel occupe les jeunes, quel est le rôle aussi des différents agents de socialisation dans la transmission de la culture. Ici, en fait, c'est un projet en fait qu'il faudrait mousser.
Et je rajouterais peut-être juste, oui, par rapport à cette étude française, un des points que j'ai trouvé très intéressant, c'est que la chercheure, en fait la différence entre la fréquentation et l'exposition des jeunes à la culture. Donc, l'exposition étant quand on prend le jeune, justement, toute l'idée, on prend et on l'amène au musée puis ou au concert classique, et le moment où il atteint son autonomie par rapport à ces choix-là, et elle démontre bien que l'autonomie n'est pas au même rythme dans tous les niveaux de culture. L'autonomie face au cinéma, au choix du cinéma, va venir beaucoup plus tôt que l'autonomie face au théâtre. Et je pense qu'une des erreurs qu'on fait, c'est qu'on assume que nos jeunes, une fois arrivés au début du secondaire, sont des acteurs autonomes face à la culture, et ce n'est pas le cas. Donc, j'appelle à ce qu'on ait éventuellement des chiffres pour pouvoir nous aider à travailler. Voilà.
Merci, Mme Léger, de votre question. Est-ce que ça se passe ailleurs? T'sais, la culture étant tellement marchandisée actuellement, est-ce qu'il y en a eu des recherches aux États-Unis, en Allemagne, pour cibler ce public-là qui est tellement sollicité?
Je peux pas répondre personnellement là-dessus, mais je peux. Moi, je trouvais que quand j'ai fait cette réflexion-là, puis je suis tombé sur la recherche de M. Prensky sur les digital natives, c'était un point de vue très, très intéressant. Lui évalue, j'ai enlevé la setup parce que j'avais pas le temps, mais les jeunes ont vu. Un jeune qui sort du collège aujourd'hui a passé, si je me rappelle bien, au-delà de 10 000 heures devant des jeux vidéo, genre 25 000 heures sur son téléphone cellulaire avec un SMS. Il a vu au-delà de 500 000 commerciaux quand il sort du cégep entre la naissance et aujourd'hui. Et il va avoir passé moins que 5 000 heures à lire des livres. Alors là, la question, c'est sûr que si on est quelqu'un qui vient de la génération des livres, on trouve ça absolument épouvantable. Si on n'est pas de la génération des livres, on remarque à quel point il est branché, puis il est connecté, puis il communique avec plein de monde, puis il y a un réseau qui dépasse sa ville, qui va même à l'extérieur. Donc c'est juste encore une fois une question de perception. Il faut qu'on ait des débats comme aujourd'hui pour ouvrir cette porte-là, puis arrêter de se faire peur à nous-mêmes. Puis si on se met en mode positif et en mode actif, on a là une richesse absolument incroyable, et plus vite on va en prendre conscience, la multiculturelle, le vieillissement qui se fait partout sur la planète. Moi, je me fais la réflexion, il y a un énorme modèle fantastique où on peut développer des technologies, des pratiques, des méthodes, être les premiers usagers de ça et en tirer les bénéfices, et après ça, pouvoir le transmettre à d'autres cultures dans d'autres pays. Il y a beaucoup plus de cultures dans le monde qui ressemblent au Québec, c'est-à-dire que moins que, mettons, 75 millions de personnes qui parlent la même langue que de cultures françaises ou américaines.
Oui, Michel Venn.
Oui, bonjour. Michel Venn de l'INM. J'ai deux questions. La première, c'est la question que je me pose, c'est cette espèce de déplacement dans la façon de consommer la culture. Est-ce que c'est irréversible? Parce que si, dès l'école primaire, on amène les enfants une fois par mois au théâtre, une fois par mois au musée, qu'on leur... bon, etc., est-ce que ça pourrait changer de nouveau? Et si ça ne change pas, à ce moment-là, est-ce qu'on a raison de continuer à réclamer dans nos métropoles culturelles la construction de salles pour l'orchestre symphonique, pour l'opéra et ce genre de choses? Est-ce qu'on est en train de faire fausse route quand on veut construire des salles pour l'OSM? La deuxième question, c'est... cette façon de consommer la culture, évidemment, vous l'avez montré, élargit, au fond, fait tomber les frontières. Alors, la question que je me pose et qui est assez fondamentale dans l'exercice qu'on conduit à l'INM du rendez-vous stratégique sur la culture, c'est de quelle manière, en termes de contenu, cette façon de consommer la culture va-t-elle ou est-elle susceptible de modifier l'identité culturelle des Québécois qui s'en viennent? Alors, voilà.
Ce sont de bonnes questions. Qui veut répondre
en partie
à la première ou
à la première.
Irréversible.
Oui, à la question des équipements, en fait, compte question des équipements spécialisés. Je pense qu'il faut distinguer entre art et culture. Il est extrêmement important d'avoir une société qui a un art véritable, un art d'excellence. Je pense que ça fait partie des grandes institutions d'une société. Maintenant, on ne peut pas espérer que quand même ces institutions, un peu comme la science, en fait, c'est important d'avoir des hauts lieux du savoir, mais on ne peut pas espérer que ces hauts lieux puissent être accessibles à la majorité de la population. Donc, il y a une partie, en fait, comme nos créateurs, nos artistes, ou comme nos scientifiques, ont accès à des lieux très spécialisés où ils peuvent s'exprimer et exprimer, en fait, à un certain public ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Puis je pense que c'est extrêmement important que Montréal soit doté de grands équipements culturels de qualité. Mais ça, c'est la dimension artistique. Il y a la dimension culturelle. Elle, où là, on fait davantage appel à des formes participatives. Et là, peut-être que ça nécessite l'aménagement différent des lieux de culture. Donc, on ne peut pas, je pense bien, mettre tous les lieux culturels sur le même pied. Ça prend des lieux spécialisés qui vont permettre l'expression artistique et de façon excellente. Et d'autres lieux qui vont permettre l'expression de la culture d'être vécue à la manière dont la population le désire et qui correspond aux nouvelles sensibilités actuelles. Comme le festival, par exemple, c'est une formule alternative et qui vient compléter, en fait, les grandes institutions artistiques ou comme les lieux de vulgarisation scientifique viennent compléter les universités et les lieux et aux lieux du savoir.
Par rapport aux valeurs, est-ce que vous vouliez répondre à cette partie-là aussi?
C'est M. Naclet.
M. Naclet, vous avez parlé des valeurs?
C'est la réponse.
Moi, je voudrais juste aller dans ce sens-là. J'ai été invité il y a à peu près trois semaines, je pense, à New York pour le International Society of Performing Arts, ISPA, c'était sa 49e assemblée annuelle et qui s'ouvre beaucoup à l'international. On n'est pas les seuls. Tout le monde qui était dans la salle sont des directeurs de salles d'opéra, de théâtre, de spectacle, et au point où cette année, ils avaient fait le thème qui était la fluidité. Le fait que les publics sont fluides maintenant. Mm-hmm. Comment les jeunes se déplacent? Ils ont même invité des jeunes pour parler, pour dire pourquoi le même scénario que tantôt. Vous allez on vous amène au théâtre, mais vous écoutez pas. Qu'est-ce que vous aimez? C'est quoi vous voulez? Puis là, on va tomber dans le jeunisme, là, de dire, on va tout mettre du multimédia à l'opéra. Et puis,
Mettre bien des images.
Faut faire attention. Ça, je veux faire attention. Alors. On n'est pas les seuls à vivre ça. Puis d'ailleurs, j'ai rencontré un des concepteurs les plus importants de salles de spectacle au monde. Puis moi, le concept que je leur ai présenté, c'était de dire, il est temps qu'on connecte nos salles.
Okay? Ben oui, c'est ça que j'étais pour dire.
On peut le faire, mais tout le monde est concentré sur son écran de cellulaire ou sur son écran d'ordinateur. Mais il n'y a pas de vision, et ça, c'est la vision que nous, on veut développer à la SAP. On l'a déjà fait. Nous, on fait des spectacles entre Montréal et Barcelone. La première partie du spectacle, c'est Montréal qui transmet à Barcelone, et l'autre suite, c'est Barcelone à Montréal. Bon, là, ce qu'on a appris, c'est que, oups, il y a un problème de décalage horaire. On a beau parler, tu sais, on dit que the world is flat, mais il y a quand même air ronde, puis le soleil, il tourne, puis j'espère que ça changera pas. Alors, entre Montréal et Barcelone, il y a 6 heures de décalage. Donc là, tout à coup, ça nous a amené à réfléchir que peut-être que nos premières expériences et nos premiers partenaires, on va devenir des cultures beaucoup plus continentales. Alors, connecter Montréal et Sao Paulo, on est sur le même fuseau horaire. Donc, je peux, moi, inviter les gens de Sao Paulo à faire un spectacle à la SAT jeudi soir en leur parlant le matin. Puis, finalement, on décide qu'on fait la fête le soir. Et le spectacle est retransmis en direct autant que Montréal peut parler à Sao Paulo. Donc là, il y a toute la question des fuseaux horaires qui va rentrer en compte dans la question de diffusion culturelle. Donc ça, c'est un aspect. Donc, la salle de l'Orchestre symphonique, je suis d'accord avec M. Garon, faut faire attention, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On est dans une période de transition, de transformation. On n'a pas trouvé encore comment on va s'enseigner l'un l'autre, mais il faut pas choisir une voie plutôt qu'une autre. Il faut les maintenir, mais comme je disais tantôt, avec l'ouverture. Peut-être que de faire des gradins, il faudrait que les gradins puissent s'enlever de temps en temps parce que on voudrait faire autre chose avec la salle. De faire des salles spécifiques comme on a toujours fait, ça fonctionne peut-être de moins en moins, malgré que les salles symphoniques, il y a l'histoire de l'acoustique et tout. Mais quand je parlais avec Monsieur Kierkegaard, la personne, le design, lui est venu justement rencontrer Monsieur Nagano, puis il est venu rencontrer la SAT dans l'après-midi. Et ce qui l'a fasciné, c'était qu'à la SAT, il n'y a rien. On est une boîte. La seule chose qui bouge pas, c'est une grille d'accrochage au plafond. À tous les jours, on change la configuration. À tous les jours, on branche le réseau ou pas. On est capable de se connecter. Donc, c'est pas la meilleure acoustique, je l'admets, mais ça sert à beaucoup d'événements. Donc, de peut-être concevoir des lieux multifonctionnels dans les prochaines années, c'est très important.
Mais je voudrais revenir à la question de M. Venn autour de qu'en termes de contenu, les contenus culturels qui sont en train de se déployer peuvent modifier l'identité culturelle, l'identité des gens.
Bien sûr, en fait.
Vous l'avez évoqué un peu, M. Garon.
Oui, bien sûr, en fait, on est ce que l'on mange, hein, au plan physique, puis au plan de la culture aussi. Quelqu'un qui se nourrit, en fait, de la culture classique, il va vivre dans un univers. Celui qui vit avec la culture numérique, il va penser... Il va avoir une nouvelle pensée. Puis c'est là, en fait, compte, je pense bien que toutes les technologies nouvelles amènent, je crois bien, là, une nouvelle intelligence. Une nouvelle intelligence que nous autres, on n'est pas capable de saisir. Je suis pas capable de penser, moi, en numérique. Mais le jeune va penser en numérique. Il va penser de façon mosaïque. Il va penser de façon éclatée. Moi, j'ai un raisonnement linéaire. Maintenant, le jeune, lui, il va penser complètement autrement. Donc, ce qui va sortir de ses intelligences, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça va être inouï, ça va être fabuleux.
Monsieur Naclé, un mot?
Parce que je pense qu'on est beaucoup branché sur la question de la forme. Parce que tout ça, le numérique et tout ça, c'est la forme. Mais le contenu dans tout ça, je ne sais pas. Moi, je pense à l'expérience de la Place des Arts. Voir le Festival du Monde Arabe avec un contenu qui est tout à fait différent, qui venait de d'ailleurs, et voir ce festival attirer des Québécois, 77% d'ailleurs de la fréquentation du public du FM1 est d'origine non arabe, voir ce festival, ce contenu plutôt, qui n'est pas d'ici et qui n'a rien à voir, là je parle pas de la forme, de la mise en forme de ce contenu, attirer une clientèle aussi diversifiée, je pense que des lieux comme la Place des Arts, c'est des lieux importants pour qu'on puisse justement arriver à attirer, à changer d'abord l'attitude par rapport aux communautés culturelles, et ça c'est une question cruciale par rapport à l'identité culturelle québécoise. C'est une société qui est de plus en plus multiculturelle et plurielle, donc c'est important que ces lieux-là puissent attirer une clientèle nouvelle, que les communautés aussi s'identifient et s'approprient ces lieux de culture comme la Place des Arts ou d'autres.
Juste un exemple, monsieur, vous êtes d'une patience infinie, je vous remercie. Je me souviens d'avoir vu une chose qui va peut-être faire image à l'intérieur du Festival du Monde Arabe, et c'était vraiment un pont entre des valeurs culturelles différentes. J'avais vu les derviches tourneurs dans le même spectacle où il y avait des moines qui chantaient du chant grégorien. C'était hallucinant de beauté. C'était vraiment très intéressant. Et là, tu dis, waouh! Là, tu fais et tu es nourri de deux façons. Bon, je ne suis pas supposé dire des choses comme ça. Oui, monsieur, mais on ne va pas.
Oui, j'arrive. Monsieur Cartier.
C'est peut-être pas pour vous. Non, c'est peut-être pour
monsieur. On arrive à monsieur, c'est ce que je voulais dire. Je me suis désolé. Avec M. Cartier, on a été invité en Polynésie et on écoutait les joueurs de tambour polynésiens et on remarquait la similarité entre les rythmes et tout ça. Dernièrement, j'ai vu un article où il y a eu une vidéoconférence entre des Inuits du Nord et des Indiens de la Colombie qui se sont, à travers la vidéoconférence, enseigné leur danse. Et ils ont réalisé qu'ils avaient les mêmes tambours. Donc, c'est effectivement à travers la culture qu'on va peut-être retrouver le vrai sens profond de notre culture, puis de découvrir qu'est-ce qui nous unit plutôt que qu'est-ce qui nous sépare.
Dans le sens que ces formes-là, le numérique, tout ça, c'est un support.
C'est des outils pour nous permettre de mieux communiquer ensemble.
Merci. Monsieur, nommez-vous, s'il vous plaît.
Oui, mon nom est Michel Gonneville, je suis compositeur de musique contemporaine.
Oui, on est fiers de vous, M. Gonneville.
Ah, merci. Et je suis aussi professeur au conservatoire, donc je forme des jeunes compositeurs de musique contemporaine. Alors, on parle là d'un segment de la culture artistique qui est extrêmement pointu, qui essaie de se défendre avec les moyens qu'elle a, et j'aimerais avoir beaucoup plus de temps pour aller à des festivals aussi intéressants que celui du
Festival
FMA, bien sûr. Mais bon, nous aussi, on essaie de se débattre dans cette situation, de mieux faire connaître notre contribution à la culture québécoise. Et dans les cahiers de l'INM, je lisais l'excellent article de Marie-André Lamontagne sur, justement, la culture d'élite, hein, les joueurs de piano. Et elle disait: quand la culture d'élite n'a pas de droit de cité, elle ne peut influencer la culture dite de grand public qui s'appauvrit à son tour. Moi, je remarque cette interaction ou cette inter-influence des cultures. Si actuellement on a des synthétiseurs et plus, si on a de la culture numérique, c'est aussi parce qu'il y a eu des explorateurs qui, dans les années 50, ont développé ce qu'on appelle la musique électronique. Et ensuite, qu'il y a eu l'IRCAM à Paris, qui a développé donc des technologies de tout genre. On est venu donc, et cette musique et ses moyens se sont démocratisés, se sont répandus grâce à la machine commerciale. Et je regarde aussi ce qui se passe du côté de mes confrères et de moi-même, l'effet de la culture, je dirais, de souche non traditionnelle, non liée à Beethoven et tout l'héritage, comment cette culture-là influe sur nos propres créations. Et c'est assez remarquable. On connaît très peu la musique contemporaine, mais il y a beaucoup de perméabilité de ce côté-là. Là, je voudrais attirer l'attention sur un acteur important qui est l'intermédiaire, c'est-à-dire, justement, les médias, la radio, qui existe encore, les critiques. Je crois que les intermédiaires ont eux-mêmes, évidemment, une vision de la culture qui, malheureusement, ne témoigne peut-être pas de l'ouverture qu'on souhaiterait. Je pense, par exemple, à Radio-Canada. Radio-Canada, le schéma que vous faisiez des différentes générations, pour moi, c'est un peu ce qui s'est passé à Radio-Canada avec la chaîne culturelle.
Chaîne
on avait, disons, une chaîne culturelle peut-être dirigée par des gens qui émanaient, qui venaient de la culture classique, des collèges classiques, qui étaient remplacés par une autre génération qui ne croit pas à une présentation peut-être qu'elle jugeait empoulée, et elle a voulu donc instaurer une nouvelle radio, sauf que on est passé d'un extrême à l'autre, à mon avis. On n'a pas créé, par exemple, pour la culture d'élite, en guillemets, ce qu'on appelle encore malheureusement la culture d'élite, des canaux pour montrer justement ces interactions entre les deux cultures, créer des dialogues entre des gens qui n'aiment pas nécessairement cette musique-là, mais qui pourraient y venir, et vice-versa. C'est-à-dire, moi, je suis initié à une foule de musique par mes enfants. Mais pourquoi est-ce que cette perméabilité intergénérationnelle ne serait pas justement stimulée par les intermédiaires que sont les critiques, que sont les radios, etc.?
C'est une bonne question. Une très bonne question. Est-ce que vous voulez y répondre, M. Garon?
Oui, je peux essayer d'y répondre.
Ça va être la dernière
réponse, mais au moins apporter certains commentaires. Il faut dire qu'il y a un rôle essentiel, très important, joué par les passeurs de culture, les médias. En fin de compte, On ne peut pas espérer que les jeunes soient initiés à une forme de culture s'ils ne la voient pas, s'ils ne l'entendent pas. L'important c'est que les jeunes puissent avoir des contacts avec les différentes formes d'expression culturelle. Et c'est la multiplication des contacts et le fait que les contacts soient assez soutenus que là, on peut développer le goût. En fait, il ne faut pas oublier que le goût, en fait, il s'éduque. Puis cette éducation, ça prend du temps, puis ça prend des moyens. Puis jusqu'à maintenant, bien, on peut dire que les masses médias ont formé un goût qui, souvent, n'avait pas de contrepartie. Alors, c'est pour ça que maintenant, peut-être qu'avec des technologies nouvelles, on va être capable de former d'autres goûts que ceux qui ont été imposés par les masses médias. Mais tout de même, ça nécessite une certaine volonté, par exemple, au niveau du système d'enseignement, de mettre les jeunes en contact avec une diversité d'expressions, puis de vouloir, d'éduquer leur goût. Il ne faut pas oublier quand même la fonction éducative qui est très importante dans la transmission de la culture. Ce n'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose qu'on apprend naturellement dans son milieu ou que l'école peut transmettre. Ce sont les deux grands agents de socialisation au niveau de la culture. Et si on les oublie, à ce moment-là, on soumet les jeunes à l'influence des masses médias, puis avec tout ce que ça peut comporter.
Un mot là-dessus, M. Naclino, M. Barcelo?
Si on voit peut-être un déclin dans les salles traditionnelles, on peut voir une augmentation dans les salles underground, justement. C'est peut-être encore une fois que les personnes surveillent ce qu'ils connaissent. Il est temps qu'on s'ouvre, il est temps qu'on regarde un peu plus large. À la SAT, l'année dernière, on a eu pas loin de 50 000 personnes qui sont venues à la SAT regarder différents types d'événements. Donc, le public se déplace. Les masses médias ont encore une influence peut-être pour les 5 à 10 prochaines années. Rapidement, nous, on prévoit que les espaces culturels underground vont avoir de plus en plus de visibilité. Ce que vous achetez quand vous achetez un écran plat aujourd'hui, vous achetez pas une télévision, vous achetez un écran numérique. C'est un écran d'ordinateur. Alors, si on vous vendait ça, vous le mettriez pas dans votre salon, donc on vous dit c'est une télé. Mais les jeunes savent très bien qu'ils vont brancher leur ordi dessus, et donc ils vont se mettre à regarder des retransmissions de la SAP, des retransmissions du festival arabe que quelqu'un aura préparé. Et donc, ils vont être assis devant leur divan, et dans leur divan, à regarder l'espace télé, et le temps d'attention est une autre chose qu'il va falloir qu'on surveille beaucoup. On passe 6 heures à regarder la télé, mais si tout à coup, j'en parle 4 à regarder des contenus que c'est mes amis ou ma communauté qui ont créé. Tout à coup, si j'ai pas un pont à travers les lieux qui ont produit ces espaces-là, on va s'isoler. Et c'est tout le contraire qu'on devrait regarder à faire avec la technologie. La technologie nous permet d'entrer en contact.
Juste pour confirmer ce que monsieur vient de dire, c'est que le principal outil de promotion du FMA, c'était notre site web. C'est là où les gens, et c'est là où on a pu attirer une clientèle québécoise diversifiée. Je pense que l'Internet constitue aujourd'hui le lieu par excellence pour la diffusion d'une culture diversifiée.
Écoutez, c'est tout le temps qu'on a. En principe, c'est l'heure du mot de la fin par notre ami Michel Venn, directeur de l'INM.
Madame?
Mais, oui.
J'aurais apprécié avoir le droit à une question.
Allez-y, madame, si c'est rapide, parce que on m'a souligné qu'il fallait...
Oui, merci. Alors, je vais être rapide. Il y a une question de faire le pont entre le réel et le virtuel. Et puis, j'écoutais monsieur du FMA. Et puis, il faut faire attention à ajouter des immigrants. C'est comme ajouter dans une cocotte minute un élément explosif. Si on est en train de parler des accommodements raisonnables, il ne faut pas oublier qu'on a des cultures ici qui sont pacifistes. Et puis, il faut faire le lien entre l'auditif et le visuel. C'est un autre pont très important à faire parce que dans notre culture, ici, il y a des visuels et des auditifs. Et c'est ce qui forme le couple, l'attraction positive et négative. Alors, notre culture est matriarcale et on est en train de passer à une culture patriarcale, mais il ne faut pas ajouter des éléments contradictoires pour augmenter la pression.
Merci. Madame, voulez-vous réagir à ça?
Je la question.
D'accord, monsieur.
C'était
un commentaire, je crois.
Oui, une question d'un...
Mais vraiment rapidement.
Oui, Grégory Baum, c'est une question d'un très vieux. Moi, je me pose la question, on parle ici culture, Et moi, il me semble, il y a quand même, il faut avouer que cette culture est quand même promue par le capitalisme. Donc, c'est une multiplication de la technologie. Ça continue, ça change toujours. C'est l'information, c'est la publicité, c'est le divertissement. Et je me demande, est-ce que ça va enlever le souci pour le bien commun et dépolitiser la société, que les jeunes, après ça, ne s'intéressent pas, ne vont pas s'intéresser au bien commun de ce qui se passe dans la société. Question.
Grande question qui arrive un peu tard, mais M. Barcelo a une réponse.
Bon, j'en ai une parmi donc. Mais l'idée pour moi, quand j'ai commencé, je me rappellerai toujours, à un moment donné, j'écoutais CBF Bonjour il y a plusieurs années, puis Marc Laurendeau annonçait l'arrivée de la télévision satellite. Et il disait, écoutez, réalisez-vous là, que là, on a 3 postes de télévision, puis lundi matin, quand on arrive au bureau, ben, il y a un tiers du bureau qui a vu une affaire, l'autre tiers a vu une autre chose, puis l'autre chose. Et là, dans quelques mois, on va avoir 500 canaux. Je pense que le début de la fin de la culture unifiée, il est là. Il n'est pas avec Internet. C'est là que ça a commencé. Présentement, encore une fois, chaque personne a la possibilité d'avoir son propre espace culturel aujourd'hui. Alors, il faut stimuler le goût d'être en contact avec les autres. Et c'est extrêmement important. Puis, je reviendrai sur mon image de tantôt. Pour moi, la publicité, je la vois à la télévision, je la vois pas tant que ça sur Internet. Le désintéressement ou le gobage d'informations, je le vois à la télévision, je le vois presque pas sur Internet. Au contraire, on a beaucoup d'interactivité, beaucoup de travail en équipe, la possibilité de donner son opinion, des choses qu'on n'a pas vues depuis des années dans la société. Alors, on a une vision de la culture jeunesse où on les voit écouter du rap et écouter de la musique américaine et tout ça. Je vous invite à venir passer une soirée à la SAP. Ce n'est pas la réalité pour moi. La 90% des gens avec qui je travaille ont envie de connecter avec la planète, ils ont envie de connecter avec eux autres. On discute actuellement pour que au 25e anniversaire du Festival de Petite-Vallée, pour la première fois dans l'histoire, on va retransmettre en temps réel le spectacle de finalistes à 3 villes de la Gaspésie. Pour la première fois, on peut utiliser notre espace. L'écran, il est monopolisé par Montréal présentement, par Radio-Canada, TVA ou Télé-Québec. Alors, pour la première fois, on va pouvoir se décider de se réapproprier cet écran-là. C'est sûr qu'il y a une période de mutation, il y a des choses qui bougent, mais soyons ouverts et puis affrontons-le comme il faut.
C'était un joli mot de la fin. Je remercie en votre nom René Barcelo, Joseph Niclet et Rosaire Garon. Je vous remercie de votre attention et je vous demande d'accueillir Michel Venn, qui est le directeur de l'Institut du Nouveau Monde.
Merci, je vous retiendrai pas longtemps. J'essaie toujours dans ces événements de montrer les quelques points qu'on peut retenir des échanges et qui peuvent nous aider à continuer à réfléchir. Mais juste pour revenir d'abord sur la question de la télévision, j'étais à Moncton il y a 2 semaines dans un rassemblement qui ressemblait un peu à ce qu'on fait aujourd'hui. Et pendant la journée, il y a plusieurs personnes justement qui se plaignaient du fait que quand on est à Moncton et qu'on regarde la télévision de Radio-Canada, on n'a que les nouvelles du Québec ou à peu près, sauf une qui vient de l'Acadie une fois par mois. Mais dans la même salle, il y avait aussi des jeunes d'une vingtaine d'années qui d'une part faisaient du rap, en effet, mais qui venaient de créer sur Internet une télévision acadienne, qui transmettait des contenus acadiens et qui était fréquentée par un nombre de plus en plus élevé d'auditeurs. Ce qui fait que ce qui va remplacer ou ce qui va permettre de résoudre certaines difficultés qu'on peut avoir avec une télévision classique, c'est peut-être par un autre médium qu'on va finir par le résoudre. Je retiens de cet échange, la première chose que je retiens d'abord, c'est que il me semble que les témoignages de ce midi tendent à nous faire penser que la culture québécoise n'est pas en déclin, mais plutôt en développement, en transformation, en renouvellement, et que ces transformations relèvent quasiment, c'est vrai, du choc des civilisations, d'une part entre les générations, mais aussi entre les appartenances culturelles, mais que ce choc peut être constructif, salutaire, créateur plutôt que destructeur. La deuxième chose que je retiens, c'est que le Québec me semble pas si mal placé pour négocier ce virage ou cette transformation. En tout cas, les intervenants que nous avions ce midi me semblent témoigner de cette capacité que nous avons, d'une part, à comprendre ce que nous sommes en train de vivre comme mutation, parce que nous avons de l'information et qu'on est capable de l'analyser et de la comprendre. D'autre part, d'agir autant sur le plan des générations que sur celui de la diversité culturelle, avec déjà des événements, des nouvelles institutions qui sont en train de naître, de se constituer. Si la SAT est un des organismes relatifs aux arts technologiques les plus importants dans le monde, ça doit être significatif. Ça doit être qu'à partir de Montréal, du Québec, on est en mesure de créer des choses qui répondent aux nouvelles exigences de la culture d'aujourd'hui, de la nouvelle modernité. Cela étant dit, je vois trois enjeux émerger parmi d'autres, mais il y en a trois, moi, qui m'ont frappé. La première, c'est celle du pouvoir. Et donc, si, en effet, à cause du poids démographique des baby-boomers, ces gens-là sont au pouvoir et n'ont pas nécessairement négocié encore le virage où ils sont des immigrants numériques ou des... c'est clair que l'un des enjeux, c'est d'investir les lieux de pouvoir ou de faire comprendre à ceux qui ont du pouvoir que la société est en train de changer et de les amener eux-mêmes à modifier à la fois leur comportement, mais aussi à renouveler les institutions dans lesquelles eux-mêmes agissent. Parce qu'on peut vouloir renouveler les publics, mais c'est peut-être les institutions qui vont devoir se renouveler. On a d'ailleurs évoqué certaines modifications qui pourraient être faites, adapter les salles, adapter les lieux, trouver des formules nouvelles comme celle du festival ou d'autres, pour, bien sûr, répondre aux nouvelles préférences dans la façon de consommer la culture des générations nouvelles, mais peut-être aussi pour, et c'est mon troisième, c'est l'enjeu suivant, pour créer des ponts. Pour créer des dialogues entre les différents segments de la société qui appartiennent à des âges différents. Le troisième enjeu me semble être celui de l'accès, d'être celui de la diffusion, d'être celui donc de la capacité de rejoindre, de faire partager par des publics différents. Des contenus culturels. Parce que, et là, je vois peut-être une contradiction, c'est vrai qu'on peut avoir accès, on peut vouloir pratiquer l'éclectisme, on peut avoir accès à différents contenus, mais en même temps, on vit dans un univers médiatique qui est de plus en plus fragmenté, de plus en plus fractionné. Alors, comment on va réussir à établir des ponts et à faire partager des contenus à des personnes qui s'isolent forcément les uns les autres parce qu'ils écoutent leur chaîne de télévision spécialisée, parce qu'ils ont leur réseau sur Internet, etc., etc., etc.? Comment on va faire dans un univers médiatique, politique, social et culturel fragmenté pour les bâtir, ces ponts-là? Ça me semble être l'enjeu majeur. On parle de ponts, on a parlé aussi de créer des lieux, des occasions de rencontre et de dialogue. C'est ce que, modestement, l'Institut du Nouveau Monde cherche à faire, à la fois par des événements comme aujourd'hui, mais aussi dans le cadre de notre rendez-vous stratégique sur la culture. On a eu une première rencontre des 3 février. La prochaine rencontre a lieu les 16 et 17 mars, encore une fois dans 9 villes du Québec, y compris Montréal, ça va sans dire. Et à ce moment-là, nous allons aborder de façon très très direct les sujets dont nous avons discuté aujourd'hui. On a eu 850 personnes à notre premier rendez-vous. On en attend au moins autant pour le deuxième. Et bien sûr, vous êtes invités à y participer. Cette fois-ci, non seulement pour entendre des personnes vous transmettre de l'information, vous communiquer des connaissances, mais aussi pour dire ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses et suggérer des manières de faire face aux défis de l'avenir. Ensuite, fin avril, 27 et 28 avril, il y aura une rencontre nationale qui réunira les gens qui auront participé à ces dialogues au cours des mois de février et mars pour essayer de tirer des conclusions sur l'avenir de la culture québécoise et même de formuler des recommandations que nous allons nous charger comme institut de transmettre à tous ceux et celles qui, dans la société québécoise et même peut-être à l'étranger, sont en mesure d'influencer l'avenir de notre culture. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui au nom de l'Institut du Nouveau Monde. Je remercie la Grande Bibliothèque, en fait la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, de nous avoir accueillis encore une fois dans ce magnifique lieu. Je remercie nos conférenciers, ainsi que notre animatrice, Ariane Aymon, que je vous invite à remercier avec moi. Merci beaucoup.